Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Livre de l'Ecclésiaste et puis lire un passage tout simple, vous le connaissez, je pense que vous l'avez lu plus d'une fois, vraisemblablement. Et nous allons retrouver ce texte. Ecclésiaste, qui s'adresse à tous, qui s'adresse aux jeunes et aux moins jeunes. Alors, comme il y a, je pense, tout un échantillonnage au milieu de nous, ça va intéresser tout le monde, en tous les cas, ça va concerner tout le monde. Alors on va lire ce passage, donc Ancien Testament, Ecclésiaste chapitre 12, et ça commence de cette manière, et ça s'adresse autant aux jeunes filles, parce que ça commence par jeune homme. Alors jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur, et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela Dieu t'appellera en jugement. Bénis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir », avant que s'obscurcissent le soleil et la lune, la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la capre n'a plus d'effet, où l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu, qu'il a donné vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Voilà, une chose que nous savons, c'est, connaissons l'histoire, connaissons le passé, connaissons le présent, celui que nous vivons, l'instant, mais nous ne connaissons pas l'avenir. Et si Dieu a voulu qu'il en soit ainsi, c'est certainement préférable. Parce qu'imaginez-vous ce que pourrait être notre vie si nous savions ce qui va se passer dans un mois, un an, 10 ans. Alors il vaut mieux que nous ne sachions pas toutes ces choses et que nous demeurions dans la foi en faisant confiance au Seigneur. Et j'aimerais que nous portions un sourire sur la vie ce matin, parce que c'est vrai qu'il y a tant de choses autour de nous qui sont terribles. Alors moi je pense que quand on est chrétien, et on l'a chanté à travers ces différents cantiques, on chante quand même notre joie, on chante notre espérance, on chante eh bien notre foi, et je dirais tout simplement, eh bien souriez à la vie, et elle vous sourira. Un grand homme de la Bible, parvenu au terme de son existence, nous laisse ces mots dans un psaume connu, le psaume 37. Il dira « J'ai été jeune et j'ai vieilli ». Constatation. Et cet homme, on l'a reconnu, c'est David. David a une histoire quand même formidable, une histoire qui peut nous encourager. Il n'a pas été indemne de faute, il n'en a commis. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il est resté fidèle envers et contre tout en Dieu. Et il pouvait écrire ces mots, j'étais jeune, dans sa jeunesse, ça a été son appel. C'était un homme d'exploit, un homme de foi, un homme de grandes choses. Et puis ensuite, eh bien, il est devenu non plus le berger des brebis de son père, mais il est devenu le berger des brebis d'Israël. Et c'était encore une autre dimension, une autre vocation. La parole de Dieu nous fait apparaître le jeune David recevant un beau jour, alors qu'il ne s'y attendait pas, l'onction divine par la main du prophète Samuel. Parce que Dieu avait mandaté ce grand prophète d'aller chercher un roi pour régner sur Israël. Et il y a également cette autre image qui, quelques 60 années plus tard, l'onction de David par Samuel, où nous voyons David roi en son palais, régnant sur Israël, et nous le voyons à ce moment-là, il est mourant. C'est passé quelque peu 60 ans, et il meurt. Et le texte nous rapporte cette phrase, il nous est dit, David mourut disparut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Nous voyons cet homme, tout jeune homme, adolescent probablement, saisi par l'Esprit de Dieu, et avec une vie qui ne sera pas épargnée, et puis nous le voyons au terme de son existence, heureuse vieillesse, avec de nombreux jours, des richesses et de la gloire. On pourrait dire, si nous voulons, que c'est une vie accomplie. Une vie bien accomplie. Une vie résumée en une phrase, courte et longue à la fois, une vie qui nous inspire cette prière pour quiconque craint Dieu. Elle se trouve dans le psaume 90 et au verset 12, et elle émane de Moïse, un grand homme de Dieu, un homme de foi, où il dira cette prière, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Et la question, elle est là. La question pour nous, elle est là. Nous sommes dans la vie. Heureux ceux qui ont été saisis par l'Esprit de Dieu lorsqu'ils étaient enfants. Heureux ceux qui arrivent au terme de leur existence et qui peuvent dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai mené la course. » Et ça, c'est la vie d'un homme. C'est la vie d'un croyant, d'un homme de foi. Mais Moïse, probablement très âgé, écrira « Seigneur, même au terme de mes jours, enseigne-moi encore la sagesse. Donne-moi de savoir ce qu'il convient de faire, afin que je puisse encore, dans les derniers instants, dans les derniers moments, appliquer, eh bien, ma vie à ta volonté, à faire ta volonté. » C'est une réflexion pour savoir vivre ou donner un sens à notre existence. Et lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, c'est bien pour nous donner des instructions, nous donner des consolations, nous donner un enseignement pour apprendre à vivre selon la pensée de Dieu. Et c'est vrai que nous en avons besoin. Nous en avons besoin à tous les âges. Parce que nous avons à faire le meilleur choix dans l'inextricable labyrinthe des orientations à prendre. Il y a dans la vie, dans le monde, des choses qui sont mauvaises. Elles sont foncièrement mauvaises. Et on le sait. Mais il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont bien, et il y a des choses qui sont meilleures. Alors je pense que nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas nous contenter de médiocrité, ce qui serait quand même profondément triste, mais nous voulons non seulement aller vers le bien, mais nous voulons aller vers le juste bien, c'est-à-dire le meilleur de Dieu pour chacun d'entre nous. Et ça, il existe. Il existe pour vous, pour chacun d'entre vous, il existe pour moi, je le sais. Personnellement, je le sais. Parce que Dieu a prévu. Je vous disais que nous ignorions totalement notre avenir, mais Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Et ce texte que vous connaissez, que je connais, qui a été déterminant pour ma propre vie, ma propre conversion, c'est dans Jérémie, où Dieu dira « Je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » C'est pas beau ça ? Formidable d'entendre de telles paroles et de dire « Eh bien, merci Seigneur. » de ce que je ne suis pas seul au monde. Je peux avoir beaucoup de gens autour de moi, mais j'ai besoin d'avoir quelqu'un au-dessus de moi. Parce que toi, tu me diriges, tu me conduis, tu m'inspires, Seigneur. Et tu sais ce qui sera le meilleur, parce que tu me connais, comme le dit le psaume 139, mais tu m'as fait, tu me connaissais déjà avant le, quand j'étais encore dans le sein de ma mère. Et il y a un plan bien particulier. Et tout commence dans notre récit, dans notre texte que nous allons maintenant méditer, tout commence par « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les jours, dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache qu'en tout cela. » J'ai trouvé dans la traduction hébraïque de Zadok, il y a d'abord l'insouciance naturelle de la jeunesse, et réjouis-toi. Et on ne peut pas empêcher les jeunes de se réjouir. C'est normal. C'est la vie. Donc, ça, c'est l'insouciance. Ensuite, nous découvrons qu'il y a l'ivresse de la liberté. Livre ton cœur. Ouais. Nous ne savons plus tellement où nous en sommes aujourd'hui dans la liberté. Ce qu'on appelle liberté, ce qui ne l'est pas, ou ce qui ne l'est plus. Et puis, vient ensuite l'illusion de nos choix. Marche dans les voies. Et il y a beaucoup d'illusions dans des choses que nous pensons qu'elles sont bonnes. Pourquoi sont-elles bonnes? Parce que c'est tout le monde les fait? Parce qu'on dit que, eh bien, c'est comme cela? Alors ça, c'est l'illusion de nos choix. Mais la parole de Dieu nous dit, mais sache que, en d'autres termes, n'oublie jamais que toute chose a ses limites. Eh oui. Vous conduisez des automobiles, vous savez qu'il y a des limitations partout. Ne les oubliez pas. Pour la santé de votre portefeuille. Mais toujours est-il qu'il y a des limites dans la vie. Et heureusement qu'il y en a. Frontières qu'il ne faut se garder de franchir. Parce que le texte nous rapporte, car Dieu t'appellera en jugement. Car Dieu t'appellera en jugement. Moi, je suis un partisan et un tenant de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Ouais, parce que ça, c'est l'esprit de l'Évangile. Mais il faut bien se rendre compte que pour celui qui ne veut pas se repentir, pour celui qui passe toutes les barrières, la parole est là pour nous dire, eh bien, Dieu t'appellera en jugement. Je me plais à penser que dans le jugement, il y a encore une grâce pour sauver les gens. Encore. Mais ça, ce n'est plus notre affaire. C'est l'affaire de Dieu. On peut donc tout faire, mais, nous précise le texte, il y a cette citation de Montaigne qui dit ceci, « La vie n'est en soi ni bien ni mal, mais seulement la place du bien et du mal, selon qu'on leur donne dans notre vie. » Et c'est vrai que c'est à nous de choisir, après tout. On est quelquefois surpris qu'il y ait des gens qui ont cette propension à aller vers le mal. Ils se plaisent au mal, ils se plaisent à l'injustice, à faire du mal. Et puis il y en a d'autres, ils ont une grande sensibilité de conscience et d'âme, d'esprit, en disant « mais non, c'est pas possible, moi je ne me permets pas ». Le verset 2, toujours dans la traduction du rabbinat français, « Chasse les soucis de ton cœur, éloigne les souffrances de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse sont choses éphémères ». Et tout le monde le sait. Alors, hors des jours, a-t-on le temps, ni même le sens des choses? Il y a quelquefois un petit brin de folie, hein? Et chez nos jeunes, on a été jeunes. Et on a eu certainement notre brin de folie aussi. Probablement. Les choses, le sens des choses qui seront, de celles que nous ferons, toutefois, ceci nous interpelle pour nous montrer ô combien la vie, de l'aube au crépuscule, est bien autre chose que de la consommation. Et nous sommes véritablement dans un siècle de consommation sans discernement et on pense que le bonheur se trouve là. J'aime bien cette réplique. Quelqu'un a dit « Ne soyez pas des consommateurs, mais soyez des consomme-acteurs de votre existence, de votre vie. Ouais. » Et ça, c'est ce que nous avons besoin les uns et les autres de réaliser. Parce que la consommation, on le voit, elle est autour de nous et on se dit, mais... Et on devrait bénir le Seigneur, figurez-vous, de tout ce que l'on a, de toute la grâce qu'il nous donne, du pays dans lequel nous vivons, comparativement à d'autres terres, d'autres continents. Une notion éminemment biblique est là pour nous le rappeler, c'est dans Galates, chapitre 6, verset 7, je cite, où nous avons sous nos yeux cette parole de l'apôtre Paul, « Que l'on ne se trompe pas, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. » Voilà, ça c'est clair. Et en tant que chrétien, en tant que enfant de Dieu, nous avons besoin de toujours tendre vers le bien. C'est pas le bien occasionnel, c'est le bien permanent. Et quelquefois, faire le bien, eh bien, consiste dans un geste. Mais quelquefois, ça consiste à empêcher notre bouche de s'ouvrir pour dire des mauvaises choses. Ça, c'est aussi faire le bien. C'est aussi la sagesse. C'est aussi de l'intelligence spirituelle ou de l'intelligence tout court. Voici un rappel judicieux à tous les casse-coups de la vie, tous ceux qui se disent « à moi ». La vie et l'aventure, qui font fi des conseils prodigués. Il y a un livre dans la Bible qui s'appelle le livre des Proverbes. Il y a de nombreux exemples dans l'Écriture sainte où il est parlé de tout ce dont nous avons besoin d'acquérir lorsque nous sommes jeunes. Jeune homme, réjouis-toi, d'accord. Il y a un homme qui a été sage au début et qui ne l'a pas été à la fin, c'était le roi Salomon. Et l'exemple qu'il a laissé à son fils, c'était un exemple quand il a écrit ce livre des Proverbes, et certainement autre chose. Il lui a donné des conseils formidables, et lui, il a fait le contraire. Et qu'est-ce qu'a fait Roboam, son successeur, c'est-à-dire son fils, qui est monté après lui sur le trône? Ben, il a fait exactement tout le contraire que ce que son père lui avait enseigné, parce qu'il avait vu chez son père qu'il avait fait lui aussi le contraire. Et je crois que nous avons besoin aujourd'hui, plus que jamais, de vraiment prendre la parole de Dieu, d'écouter l'Esprit, d'écouter ce que Dieu, parce qu'il parlera à travers les parents. Si vous êtes parents, eh bien Dieu parle à travers vous pour vos enfants. Non seulement dans ce que vous leur direz, mais dans ce que vous vivrez. Il parle à travers les éducateurs qui sont autour de nous. Eh oui, il parle à travers tous ceux qui ont vocation de donner des messages pour inciter, pour exciter, nous pourrions dire, au bien. Aujourd'hui, c'est passé de mode, ça fait peut-être même sourire, mais tant pis. Parce que nous devons nous souvenir, selon ce que nous avons lu dans Paul, c'est que toutes les semences poussent, et vous remarquerez avec moi, et ça ce n'est pas un scoop, les mauvaises poussent beaucoup plus que les autres, et elles poussent beaucoup plus vite que les autres. Elles sont beaucoup plus vigoureuses. Alors, nous avons à choisir entre la prévention ou la guérison. Eh bien, si on peut éviter la guérison, faisons de la prévention. Et prenons la parole de Dieu et recevons cet enseignement que le Seigneur nous donne. Au verset 3, il est dit ceci, « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, « Je n'y prends point plaisir. » Dans le tourbillon qui nous emporte, partout, et nulle part, il y a cette parole exhortative qui nous rappelle au souvenir et à la crainte. Quand il n'y a plus de crainte, nous dit la Bible, le peuple est sans frein. Et je dirais que quand il n'y a plus de crainte, même sur le plan de notre vie civile, eh bien c'est vrai que le peuple n'a plus de limite. Et ça, c'est une vérité. Alors, je crois que nous avons besoin d'entendre les exhortations de Dieu, et Dieu nous dit qu'il existe, qu'il y a un Dieu dans le ciel, et qu'il est aussi créateur, qu'il est aussi sauveur, et je dirais qu'il est sauveur aussi en nos périls dans lesquels nous nous mettons nous-mêmes, dans des difficultés. Alors souvent, on a l'habitude de prier Dieu que quand ça va mal. Alors, quelle image pouvons-nous avoir de Dieu? Et pourtant, Dieu est rempli de miséricorde, parce que quand on crie à lui, il nous rappelle toujours. Il nous dit, ben, je vais encore te sauver, comme les disciples qui sont en train de s'enfoncer dans la mer de Tibériade. Eh oui. Mais est-ce que nous devons attendre que ça aille mal parce que nous avons fait finalement des choses que nous n'aurions pas dû faire? C'est triste cela. Quelle réaction! Parce que Dieu veille sur nous. Et nous pouvons bien sûr faire avec ou sans lui. Cependant, nous voulons nous souvenir qu'il est toujours prêt à nous secourir au cas où? Et ça, c'est le message de la grâce. Et pourtant, est-ce que nous n'aurions pas autre chose à faire que de l'appeler toujours à notre secours? Est-ce que nous ne pourrions pas avoir une autre vie, une autre façon de mener notre existence que de l'appeler toujours en dépannage parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, dont il n'est pas la cause, dont les autres ne sont pas la cause, mais dont nous sommes nous-mêmes la cause par, eh bien, parfois nos fantaisies? Je voudrais dire que Dieu n'est pas un filet de protection. Il l'est, c'est vrai, mais il ne faut pas le considérer comme cela. La jeunesse est propice aux orientations capitales qui traceront l'avenir. Et c'est important, la jeunesse. On rate sa vie. On prend la bonne direction. On choisit. Nous nous sommes réjouis cette année parce qu'il y a eu 3 services de baptême avec 9 jeunes, de jeunes adultes. Et c'est formidable, et nous pouvons nous réjouir, vous les parents, et puis nous, en tant que conducteurs spirituels de cette Église, de voir des jeunes gens et des jeunes filles dire « Maintenant, je donne ma vie à Jésus ». Et ça, c'est quelque chose d'important. Nous l'avons fait en notre temps, et nous n'avons jamais eu à regretter le choix que nous avons fait d'avoir choisi le Seigneur jeune, même si nous ne sommes pas nés avec la Bible sous l'oreiller. Hein. Mais toujours est-il que ça, c'est quelque chose d'important, parce que toute notre vie a été complètement transformée et changée. Alors, c'est vrai, je le répète, la jeunesse est propice aux orientations capitales. Et nous devons véritablement appuyer nos choix, nos orientations sur eh bien, les principes qui nous sont donnés dans l'Évangile. Pour la jeunesse, c'est le choix d'un conjoint. Et combien c'est important. Je sais qu'aujourd'hui, on raisonne qu'on peut se marier, et puis demain, si ça ne va pas, on changera, et puis on peut le faire autant qu'on veut. Permettez-moi de dire que c'est pas ça. Parce que c'est pas ça, parce qu'il y a des principes qui ne sont pas comme cela. Et puis, ce n'est pas ça pour le bonheur, votre propre bonheur. Et c'est aussi un héritage que nous laissons à ceux que nous avons donné la vie et qui voient l'explosion et l'éclatement. C'est terrible, c'est notre société. Alors je pense que s'il y a des gens qui raisonnent à l'extérieur, qui se gardent tout cela, alors nous, à combien plus forte raison, devons-nous être sages et devons-nous faire un effort pour aimer, parce que quand on ne veut plus aimer, on n'aime plus. Et pourtant, l'amour... Le mariage, c'est vouloir aimer, c'est une volonté d'aimer, c'est pas un sentiment amoureux seulement. Alors donc le choix d'un conjoint, le choix d'une profession, le choix d'un cadre de vie, de toutes ces choses qui appartiennent à notre existence, rien n'est affaire de quantité, mais tout est une affaire de qualité. Et à choisir, en prendre moins, mais prendre meilleur. Vous n'êtes pas d'accord? Ouais. Prendre meilleur. Parce que Dieu veut nous donner le meilleur, je l'ai dit tout à l'heure. Il veut nous donner ce qu'il y a de meilleur. Et c'est une affaire aussi d'état de cœur. Et je crois que ces ressources, ces vraies valeurs ne se trouvent qu'en Dieu. C'est pourquoi les choses ont été écrites. Alors pourquoi nous sommes exhortés à cette sagesse précoce? Jeune homme, souviens-toi de ton Créateur. Parce que rien ne nous appartient, nous ne maîtrisons rien, et la vie des hommes... Par-delà les plus savants pronostics, reste la grande et la belle imprévisible. On part et on se dit, je ferai, je serai ceci ou cela. Et puis, qu'en est-il lorsque nous faisons le bilan au terme d'une vie de 60, 80 ans ou plus? On s'aperçoit, et quand on visite les maisons de retraite, où nos frères et nos sœurs, et puis ceux qui nous sont donnés, avec lesquels nous avons à parler, eh bien on s'aperçoit que c'est une autre affaire la vie, hein. Si vous pensez que les choses sont déjà établies à l'avance, c'est nous qui les déterminons dans notre confiance et dans notre abandon entre les mains de Dieu. Parce qu'il sait ce qu'il y a de meilleur. Moi, je suis papa, j'ai élevé des enfants. Eh bien, je peux vous dire que nous nous sommes tenus avec notre épouse pour prier pour eux tous les jours. Et quelquefois, ils n'étaient pas d'accord, hein, surtout dans l'adolescence. Eh bien, pourtant, on a essayé de garder le cap. Et aujourd'hui, ils nous disent merci parce que vous avez été ferme. Merci parce que vous nous avez donné des bases. Merci parce que nous avons vu en vous ceci et cela. Et ça, c'est important. Et Dieu fait la même chose avec nous. Pourquoi il nous résiste quelquefois? Mais parce qu'il sait très bien qu'il y a parfois de la folie dans nos cœurs et que nous avons des désirs, nous avons des convoitises, nous avons toutes sortes de choses. Et il ne nous laisse pas faire. Et heureusement qu'il ne nous laisse pas faire. Et si nous ne savons pas le comprendre aujourd'hui, nous le comprendrons lorsque nous serons de l'autre côté. On dira, mais merci Seigneur, parce que heureusement tu m'as arrêté de faire cette sottise. Et à tous les âges, on est capable de faire des sottises. C'est pourquoi nous lisons « Avant que ». Comme une sorte d'avertissement à l'inéluctable qui colle à toute existence ici-bas. Avant que les jours mauvais arrivent, nous dit le texte. Au verset 4, si nous prenons le texte brièvement. Avant l'affaiblissement de l'être tout entier qui rend plus difficile de vivre, la sensibilité de l'âge, ô combien respectable, où l'on ne devrait jamais devoir dire ces paroles de l'apôtre Paul, je vous ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie. Et c'est vrai que Paul écrira ceci parce qu'il avait donné des conseils à l'Église. Et l'Église avait fait exactement le contraire de ce qu'il fallait. Et il l'écrit parce qu'il va retourner les voir. Il leur dit, mais dans quel état je vais vous trouver? Et quand nous lisons, avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, c'est qu'il y a là quelque chose qui fait que dans le monde dans lequel nous sommes, les choses qui sont, que nous ne pouvons pas saisir et maîtriser, eh bien, avant qu'il y ait toutes sortes de circonstances qui nous emportent loin du Seigneur et qui nous retirent de sa présence. C'est peut-être ce que notre texte appelle les nuages qui reviennent après la pluie. On l'a devant les yeux. Et qui donne de nouvelles pluies et qui donne aussi dans la vie de nouvelles larmes. Seigneur, enseigne-moi ta sagesse. Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours. Donne-moi un cœur qui soit sage, un cœur qui réfléchit, un cœur qui prend en compte ce que tu me dis pour mon propre bien. Les nuages qui reviennent après la pluie, les nuages, il y en a. Il y a aussi beaucoup de larmes, beaucoup de larmes. L'âge qui s'avance, et il s'avance en silence, fragilise à travers les luttes, à travers les soucis, les inquiétudes. Quand les forces vives de réaction s'amenuisent, là où on en a besoin plus que jamais de Dieu, et c'est ce que nous montre la suite du récit. On a peut-être rêvé que le troisième ou le quatrième quart de la vie, quatrième âge ou troisième âge, était de tout repos. On nous a promis une retraite ensoleillée, une fin de vie tout en douceur, et voilà que l'histoire, que l'autre histoire nous rattrape et parfois nous dépasse. Et c'est vrai que quand on regarde tous les slogans qui nous sont proposés, beaucoup de gens disent « j'arrive à la retraite, ça va être formidable ». On est en train de réviser la question en ce moment, hein, financièrement. Mais toujours est-il qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier, c'est qu'on nous fait rêver. Et puis on s'aperçoit que dans la réalité, c'est autre chose. C'est ce que Jésus tendra à dire un jour à Pierre. Quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, c'est un autre qui te mènera là où tu ne voudras pas aller. Et que de beaux projets nous avons peut-être dans notre existence. Et puis avec le temps, dégradation de la santé, les soucis que nous donne la famille, parce que je peux vous dire que la famille, c'est un souci. Hein. Petit enfant, petit souci. Grands enfants, ça déborde. Vous le savez, ça. Mais néanmoins, le Seigneur est fidèle pour nous aider dans cette affaire. Eh oui, il est fidèle. Alors, parce que lorsque nous arrivons à un certain âge, eh bien, il y a une vie derrière soi, c'est forcé. Et je dirais qu'il n'y a pas seulement ma vie derrière moi, mais il y a la vie de tous ceux auxquels j'ai donné la vie. Nous avons des vies derrière soi. Et ça s'appelle la famille, ça. Avec des enfants. Avec des enfants qui ont bien tourné, et c'est la joie. Des enfants qui se sont bien mariés, et c'est un bonheur. Avec des petits-enfants qui... Bon. Et puis il y a aussi le cas contraire, malheureusement, et ça c'est pas l'exception. C'est pas rare. Où nous avons quelquefois, lorsque nous arrivons à un certain âge, à pleurer sur certaines situations. Les parents chrétiens qui ont vu leurs enfants enseigner dans le message de l'Évangile et qui se détournent, qui font n'importe quoi, qui sont partis dans n'importe quelle direction. Alors je voudrais vous encourager, croyez encore à la vérité de la parabole du fils prodigue, hein, et priez pour cela, priez pour cela. Mais en attendant, c'est les nuages qui reviennent après la pluie, et je dirais, comme nous l'avons lu, c'est les larmes, souvent, qui marque notre visage. Cette famille qui est quelquefois la source de grandes douleurs, et avec le temps, son cortège de joie et de bonheur, eh bien tout ça disparaît. Situation conflictuelle, les expatriements, les séparations, séparation volontaire ou non, les choix heureux ou malheureux, Voilà la famille. Et la famille, ça porte un nom, c'est le cœur. Et s'il y a une chose qui fait souffrir, c'est le cœur. On peut souffrir d'arthrose, on peut souffrir de différentes souffrances, différentes douleurs physiques, mais le cœur, c'est le lieu par excellence de l'amour, mais aussi du désappointement, parfois même de l'amertume, à l'instar d'Isaac et de Rebecca, qui avaient vu finalement leur fils Ésaü se marier avec, vous retrouverez cela, hein. Je ne veux pas citer le texte, c'est dans Genèse chapitre 26, verset 24, vous verrez ce qui est écrit. À cela s'ajoute l'inévitable qui suit, cet autre trésor inestimable qu'est la santé. Oui, la santé, c'est aussi quelque chose d'important. Bientôt, on va se souhaiter une bonne année et on n'oubliera pas de dire une bonne santé. Ouais, parce que c'est tellement important, le monde le dit, parce qu'il est conscient que c'est quelque chose d'important. Et vous savez, on peut dilapider sa santé sottement. Hein. On a envie de gesticuler quand on est jeune, ça c'est sûr, on l'a fait aussi. Mais au bout d'un certain temps, on est un peu plus pesant. Hein. Enfin bon, certains plus que d'autres. Mais toujours est-il que quelquefois, on dilapide toutes ces choses. Et c'est pourtant des dons de Dieu. Et je crois que, moi je m'adresse maintenant aux jeunes, simplement, et à ceux qui sont plus jeunes, soyez pleins de respect, de prévenance à l'égard de ceux qui sont vos aînés, vos parents. Parce que l'on dit... cette parole, que dans chaque vieillard, il y a un jeune qui se demande ce qui lui arrive. Quand il commence à avoir un petit peu de la couronne d'argent, vous savez, sur la tête. Parce que vous savez, la vieillesse, sans accident, ça arrivera à tout le monde. Ça nous arrivera tous. Le verset 5, où il est question justement de la santé, où il est question de la vie d'une manière générale. Verset 5, dans notre passage, tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forcent courbes, où celles qui meulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Le cœur peut être en peine et le corps en panne, si je peux m'exprimer ainsi. Tant où les gardiens tremblent. C'est l'image, c'est une métaphore qui nous est donnée. C'est l'image de ces gardiens qui, eh bien là, représentent les bras agiles et vigoureux hier, lorsque nous étions jeunes, et qui perdent leur assurance, où les hommes forts se courbent, ce sont les jambes robustes dans la jeunesse et qui ploient et qui chancellent parce qu'elles sont fatiguées lorsque l'âge arrive. Celles qui meulent s'arrêtent, c'est là le symbole des dents qui sont l'éclat et la beauté du visage lorsque l'on a 20 ans, mais qui à un moment donné, eh bien, tombent les unes après les autres. C'est aussi ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Ce sont les paupières et les prunelles qui se voilent progressivement. C'est pour ça qu'il y a tant de gens arrivés à un certain âge qui portent des lunettes. On vit dans une société extraordinaire parce qu'on a pallié à tout ça. Les prothèses, hein, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. À la fin de notre vie, on sera plein de prothèses, dans tous les sens. À l'extérieur comme à l'intérieur. Eh oui ? C'est un petit clin d'œil que je fais. Les deux battants de la porte, ce sont les lèvres. Qui s'abaisse ou s'abaisse le bruit de la meule, c'est la faiblesse de la voix qui s'affaiblit avec l'âge. Toutes les filles du chant, c'est l'image des cordes vocales. On peut avoir une voix extraordinaire en pleine maturité, puis au bout d'un certain temps, ça devient un petit peu chevrotant, hein. Mais c'est très beau aussi, hein. Où l'on redoute ce qui est élevé, même les plus petites montées essoufflent quand on arrive à un certain âge, où l'on a des terreurs en chemin. Les courtes distances sont de grands voyages et à petits pas dans la crainte de tomber pour les personnes qui sont âgées. Oui, tout ça est expliqué, c'est métaphorique, mais c'est très beau. Où l'amandier fleurit. Alors, je voudrais vous dire, vous qui avez les cheveux blancs, eh bien vous portez une couronne d'argent sur votre tête. Et soyez-en fiers, il paraît que la Bible nous dit, le livre des Proverbes, que c'est une couronne de sagesse. Vous pouvez bénir le Seigneur, hein. Moi, ma femme me scrute assez souvent pour dire « Tiens, t'as un cheveu blanc. » Mais parce qu'elle ne voit pas très clair. C'est pas possible que j'ai pas de cheveux blancs. L'amandier fleurit. Cheveux blancs, couronne d'argent. Où la sauterelle devient pesante. L'engourdissement de l'âge, la lenteur est à agir et à réagir. Où la capre est sans effet. C'est l'appétit, quand on est vieux, qui s'éteint. Le goût n'est plus excité. On ne mange plus à ce moment-là, on grignote. On n'a plus besoin de faire de grands repas plantureux. La vieillesse est ici comparée à une maison qui s'abîme peu à peu. Parce que c'est ça la vie. Dieu nous a donné la jeunesse, l'expérience de la jeunesse, ça c'est le printemps. Nous avions fait un message sur les quatre saisons il y a quelques mois. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Ne croyez pas que l'hiver ce soit la plus mauvaise des saisons. Le printemps a sa raison d'être, l'été aussi, l'automne. Et ça c'est l'histoire de la vie des hommes, c'est l'histoire de Dieu dans la vie des hommes. Et nous devons peut-être le penser de cette manière. Donc c'est ça la vie, comparer une maison. Et elle va s'abîmer. Le croyons-nous, mais Paul nous dit le contraire. Quand il écrira dans une de ses épîtres, et il affirme « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, car si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Et ce qui est extraordinaire quand on connaît le Seigneur, quand on a fait l'expérience de la repentance, de la conversion, de la nouvelle naissance, et que l'Esprit de Dieu nous habite, c'est que finalement nous portons peut-être les stigmates de l'âge, mais néanmoins, à l'intérieur, eh bien, c'est le contraire qui se produit. Pour arriver dans la dimension de l'éternité. Parce que c'est la jeunesse éternelle. C'est la beauté éternelle de l'autre côté. C'est l'amour. C'est la lumière éternelle. Et ça, c'est un principe qui nous est enseigné dans l'Évangile. Cette vie, nous ne la portons pas à l'extérieur, nous la portons à l'intérieur. Et c'est pour cela que quelquefois nous sommes... Certains disent, mais les chrétiens, ils meurent comme les autres. Mais bien sûr que nous mourrons comme les autres. Mais bien sûr que nous allons mourir. Mais il y a une chose qui est en préparation depuis que le Seigneur est venu dans notre vie, c'est qu'il est en train de nous construire, de nous édifier, de nous transformer, de nous régénérer de l'intérieur. Et ça, c'est la vie de l'Esprit. C'est pour cela que les textes sont écrits de cette manière. Si nous regardons avec une vue humaine, bien nous voyons que toutes les choses se dégradent. Mais si nous regardons avec la lumière de Dieu et avec l'enseignement que nous donne la parole, alors à ce moment-là, on peut bénir le Seigneur. Et c'est pour ça que je le disais ce matin et je le dis à chaque culte. Mais lorsque nous venons dans un culte, mais bénissez le Seigneur. Ouvrez votre bouche, louez-le, adorez-le, c'est lui qui est notre vie, c'est lui qui nous donne sa grâce jour après jour. Et si je regarde mes rides, si je regarde un petit peu mes douleurs, mon arthrose, parce que j'en ai, quelque part je me dis, mais c'est vrai, je vieillis et tout ça, mais je ne dois pas regarder à cela, je dois regarder à ce que le Seigneur a fait. Depuis qu'il m'a appelé, j'avais 18 ans, et c'est formidable, je ne sais pas s'il a fait beaucoup de choses, enfin moi je sais qu'il a fait beaucoup de choses pour moi, mais ce n'est pas par vanité que je dis ça. Mais je dis, merci Seigneur de ce que tu t'es fait connaître à moi. Qu'est-ce qu'aurait été ma vie autrement? Et c'est pour ça qu'il faut prêcher l'Évangile. Il faut prêcher la vie en Christ. Il faut prêcher cette nouvelle naissance. Il faut prêcher cette vie de Jésus à l'intérieur de nous-mêmes. Ce n'est pas d'avoir Jésus à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre cœur. Ça, c'est important. Alors écoutez, je rappelle... « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Nous pleurons, nous souffrons, nous avons toutes sortes de maux et de chagrins sur cette terre. Mais regardons de l'autre côté. Perçons le voile, parce qu'il y a quand même des éléments qui nous donnent d'espérer qu'il y a un autre monde. Si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et ça, c'est la victoire de l'espérance. » C'est la victoire de la jeunesse, quand elle est bien canalisée. C'est le passage de la jeunesse à la vieillesse, et dans la vieillesse, l'allégresse. C'est ce que le texte nous dit, l'allégresse du fruit mûr pour entrer dans l'éternité. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, la poussière retourne à la poussière comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a créé. Nous ne sommes pas faits que de matière. Nous avons un corps. Qu'il nous faut entretenir pour la gloire du Seigneur. Et comme nous l'avons vu la semaine dernière, eh bien acceptons-nous tels que nous sommes. N'allons pas nous focaliser sur nos disgrâces et peut-être sur nos défauts, ceci et cela. Non, on l'a vu ça, s'aimer soi-même, pour bien aimer Dieu et pour bien aimer les autres. Il y a peut-être aussi quelquefois, eh bien là, dans notre vie intérieure, des choses. Alors, bénissez le Seigneur pour votre vie intellectuelle, pour votre vie profonde. Puis bénissez le Seigneur pour votre vie spirituelle. Ouais. Parce que tout cela, c'est une préparation. Notre corps n'est qu'un véhicule. Et puis il disparaîtra dans la poussière, nous l'avons lu ensemble. Mais l'essentiel, c'est l'âme et l'esprit. Et il nous est dit que l'esprit retourne à celui qui l'a créé, dans une dimension d'éternité. Difficile peut-être à comprendre, mais l'esprit nous l'enseigne. Ainsi, et je termine, l'éclat et la beauté passent de l'extérieur vers l'intérieur. Ouais. Miracle, métamorphose, œuvre silencieuse, œuvre puissante, je dis bien. que ça passe de l'extérieur, de la jeunesse, à l'intérieur. Et croyez bien qu'il y a de beaux vieillards. Ouais. Ça se voit peut-être à l'extérieur, c'est vrai, mais ça se voit aussi parler avec des gens qui ont l'expérience de la vie avec Dieu, qui ont mené leur vie avec Dieu, qui ont servi le Seigneur, qui ont aimé Dieu toute leur vie. Vous verrez, ils ont les fruits. Ils ploient sous les fruits de l'Esprit. Et vous les connaissez, les fruits de l'Esprit ? C'est dans Galates chapitre 5, verset 22. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la douceur, la tempérance, la fidélité ou la foi, c'est ce que vous voudrez, comme vous voudrez. Et puis, il y en a encore deux autres que je ne me souviens plus parce que je ne les ai pas sous les yeux. Mais toujours est-il, la longanimité. Eh oui, c'est ça. Quand on touche ces gens, on se dit, ils sont remplis de Jésus. Ils sont remplis du caractère de Christ. Et vous savez, quand on a des sépultures à faire, et quand on voit un frère ou une sœur que l'on accompagne, et auquel on peut dire, eh bien voilà, ce frère et cette sœur, comme Paul, a combattu le bon combat, il a gardé la course, il est allé jusqu'au bout. Et le témoignage que l'on peut rendre d'une bonne réputation de chrétien, d'enfant de Dieu, d'homme, de disciple de Jésus-Christ, c'est qu'il était rempli et chargé de fruits. Le caractère chrétien, le caractère de Christ en nous. De l'extérieur à l'intérieur, il y a un proverbe suédois qui dit ceci. « Jeunesse, belle de face, vieillesse, belle dame. » Pas « belle dame », « belle dame ». Vous lisez. « Accepter la marche inéluctable de la vie, accepter dans l'espérance et accepter les choses dans la bonne humeur. » Paul dira « Soyez toujours joyeux et réjouissez-vous dans le Seigneur. » Et je suis assez surpris que quelquefois nous ne trouvions pas cette joie dans nos églises. Il y a un problème, et c'est un problème qui vient finalement, eh bien là, d'un épanouissement intérieur. Jésus nous a promis qu'il nous donnerait l'abondance. Donc, accepter dans l'espérance et accepter dans la bonne humeur les choses. Je vous livrerai un secret. Vous ne le direz pas, surtout que c'est enregistré. Savez-vous que les rides que Dieu a faites au visage sont les marques des sourires? Ça, c'est pas un sourire, c'est une grimace. Ouais, je l'ai entendu, hein. Les marques des sourires, car celui qui ne sait pas sourire de la vie vieillit 10 fois plus. Alors souriez, hein. Oui, on vieillit beaucoup plus quand on ne sait pas sourire. Que je regarde. Je vais mettre mes lunettes quand même. Parce que je ne vois pas de très loin. Alors, vous me faites un sourire ou quoi? Souriez! Oh, il y a des sourires épanouis formidables. Ah, c'est extraordinaire. Ben, vous allez garder votre jeunesse. Ce n'est pas la peine de faire des cures, ceci et cela. Hein. Maintenant, c'est terminé. Hein. Et je voudrais vous rassurer, c'est qu'on ne cesse pas de rire quand on vieillit. Si ça peut vous rassurer, je vous le dis. Parce qu'il y a des gens, quelquefois, ben, quand... Ils arrivent à un certain âge, ils ne veulent plus sourire. Mais on vieillit parce qu'on cesse de rire. Alors, l'antidote est « Soyez toujours joyeux », nous dit l'apôtre Paul. Le même Paul nous donne encore une grande leçon, et je vais bientôt terminer. Il dit « J'ai appris à être content, à accepter l'état, et moi j'ajoute, je paraphrase, hein, j'ai accepté l'âge de la vie, j'ai accepté l'âge de ma vie, l'état de la vie, des peines et des joies où je me trouve. » Que Dieu nous donne véritablement de regarder à lui parce qu'il a le meilleur, si nous savons comprendre les choses. Et tout en me rappelant, je voudrais faire un dernier petit clin d'œil avant, tout en me rappelant, et je parle pour moi, je ne parle surtout pas pour les autres et pour mes frères et mes sœurs qui sont âgés, je veux me rappeler que si je suis ou quand je serai vieux, je vaudrai une fortune. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que j'aurai de l'argent dans les cheveux. C'est que j'aurai de l'or dans les dents. C'est que j'aurai des pierres dans les reins. Et peut-être du plomb dans les pieds. Et que finalement, je vaudrai de l'or parce que je représenterai un vrai trésor géologique et minéral. C'est pour ça que ça vaut son pesant d'or. C'est un petit sourire que je fais cela, mais c'est pour vous dire, hein. C'est pour vous dire les choses, tout simplement. La morale de ceci, c'est que jeune ou vieux, sans en avoir vraiment le choix, on peut à tout âge c'est vrai, être mal dans sa peau et dans son cœur. Alors il vaut mieux dire, avec l'évangile que nous avons entendu et la parole qui nous accompagne, « Je suis bien » ou « Je vais bien ». Vous avez remarqué combien on pose cette question de combien de fois par jour quand on rencontre quelqu'un ? Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Quelquefois, ça peut être très ennuyeux. C'est vrai. Et les gens nous disent, à chaque fois, même s'ils vont très mal, ça va. Ça va bien. Parce que c'est passé dans les formules, tout simplement. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas mieux dire, avec la grâce de Dieu, je vais bien ? Dans ma communion avec le Seigneur, je vais bien. L'Esprit de Dieu me donne d'aller bien, parce que si tout est noir, si les nuages s'amoncellent au-dessus de ma tête, si quelquefois il y a des larmes qui ruissellent dans les rides sur mon visage, une chose c'est que je veux espérer en l'Éternel, je veux espérer encore dans mon Dieu. Ça c'est Habacuc qui nous dit cela, le prophète. Eh oui, je veux trouver quelque chose qui me donne, eh bien, d'être, malgré, envers et contre tout, contre vents et marées, eh bien, être ce que le Seigneur désire. Je vais bien, je suis bien, autant qu'il est possible de l'être. Et c'est la vie spirituelle qui doit prendre le dessus sur nos états d'âme, nos états de cœur, nos états d'esprit, et puis sur nos douleurs, sur nos souffrances. C'est la vie à l'intérieur qui doit prendre le dessus à ce moment-là, et on est des hommes transformés et changés. Et c'est ça ce que Dieu veut. Je suis bien, je vais bien, par la grâce de Dieu. Et dites-le avec un large sourire, parce que quand on vous posera la question en disant « Comment vas-tu ?» et que vous dites « Je vais bien », vous voyez la joie qui est en moi. C'est terrible, hein ? C'est terrible. Non, vous le dites avec « Mais je vais bien ». Et on peut le dire véritablement de tout son cœur, avec une grande sincérité, et laisser toutes ces petites étincelles de Dieu, là, illuminer autour de nous. Et ça fait du bien, ça. Ça fait du bien. Parce que le sourire, c'est quand même le rayonnement de notre foi. Que de laisser transparaître nos aigreurs qui rendent si souvent la vie difficile à nous-mêmes et on la rend malheureusement difficile aux autres, forcément. La conclusion. La vie, vivre, c'est une école de Dieu. C'est l'école divine, on ne la comprend pas toujours, mais elle nous prépare pour une autre dimension. Elle nous prépare pour un autre monde. Cela nous prépare à l'éternité, où la jeunesse, cette foi, sera définitive, éternelle. Alors le texte nous dit, alors souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur. Dans le psaume 92, ce sera la dernière citation. Je lis ce passage, il est beau à mon sens. Il est dit, les justes croissent comme le palmier. C'est 92, verset 13. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Et mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Ils prospèrent dans les parvis de la maison de l'Éternel. Il n'y a point d'injustice en Dieu. Le vieillissement n'est pas une injustice. Peut-être que certains le pensent, mais ce n'est ni une injustice, ni une extinction. C'est seulement la gerbe mûre, en son temps, qui est chargée de fruits, et je m'en réfère maintenant au prophète Daniel dans son livre de l'Ancien Testament, ces gerbes de fruits qui brilleront dans la splendeur du ciel, comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Vous vous rendez compte que ce que Dieu est en train de nous préparer, c'est une métaphore, mais néanmoins. Imaginez-vous ce que Dieu est en train de nous préparer de notre côté, si nous sommes chargés de ces fruits de la vie spirituelle. Alors, est-ce que ce n'est pas une raison, et je conclue, est-ce que ce n'est pas une raison de prendre la vie dans la bonne humeur ? Parce que des problèmes, vous en avez eu. Des problèmes, vous en avez et vous en aurez encore. Ça, il ne faut pas vous faire d'illusions. Hein. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous pouvons changer, avec la grâce de Dieu et dans notre confiance en Dieu, les choses. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui change le mal en bien ? Est-ce que ce n'est pas lui qui change la peine en allégresse ? Est-ce que ce n'est pas lui qui change la maladie en santé ? Est-ce que ce n'est pas lui qui est capable de faire tout ? Si nous lui laissons au moins l'occasion de le faire dans notre propre vie et que nous l'invitons à le faire. Alors, Prenons la vie dans la bonne humeur et ayons un peu d'humour dans l'existence, s'il vous plaît. Un peu d'humour. Et alors vous pourrez dire, comme un autre prophète dans la Bible, « Car la joie de l'Éternel sera votre force. » Oui, sera votre force. Et moi j'ajoute, pour aller jusqu'au bout, que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours et donne-nous d'appliquer notre cœur à ta sagesse, à la sagesse. Prions quelques instants. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu as bien voulu dresser devant nous tout simplement ce que peut être la vie. C'est vrai que nous nous interrogeons beaucoup. Nous sommes des hommes renfermés dans un corps et notre corps est souvent la prison de notre esprit. Et avec toutes ces contraintes, avec toutes ces pressions, avec toutes ces souffrances et ces douleurs. Mais nous croyons, Père éternel, que tu es venu en nous donnant Jésus. Tu nous as donné, Seigneur, l'espérance. Tu nous as donné une autre dimension, une autre façon de penser les choses. Seigneur, merci pour Jésus. Merci pour sa mort à la croix, parce qu'elle nous donne la vie aujourd'hui. Merci parce que c'est dans ses meurtrissures que nous sommes guéris si nous sommes malades, malades physiquement, malades moralement. Merci Seigneur parce que, en effet, Père éternel, nous sommes tous passés par cette grâce, de venir dans ce monde. Nous avons là passé l'enfance, la jeunesse, l'adolescence avec toutes ces crises, Seigneur, inhérentes. Et puis, Seigneur, tu nous as permis de passer les années. Et pour certains, Seigneur, tu leur donnes maintenant d'être couronnés, Seigneur, avec véritablement, cette marque de sagesse dans l'âge. Mais néanmoins, Seigneur, plus nous avançons, plus c'est bon avec toi. Parce que nous sommes, en effet, là, dans l'impatience de voir ce royaume que tu nous as préparé. Non pas que nous cherchions à partir, mais nous savons, Seigneur, que quelqu'un nous attend dans les lieux célestes. Et que le ciel n'est pas vide. Et que nous avons, là, Seigneur, à rentrer dans ces palais de grâce, dans ces palais de lumière et d'amour. Merci, Jésus. Je te demande de fortifier mes frères et mes sœurs qui passent par des mauvais moments. Qui sont physiquement malades, qui sont moralement, Seigneur, atteints psychologiquement. Je te prie pour tous ceux et celles, Seigneur, qui sont en souffrance familialement, parce qu'ils sont dans la peine à cause de leurs enfants, Seigneur, ou de leurs petits-enfants, pour une raison ou pour une autre. Nous voulons te demander, Seigneur, aussi pour nos frères et nos sœurs qui sont dans la confusion spirituelle, qui ne savent plus où ils en sont rendus. Alors bénis-les, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous t'en prions, et nous comptons, Seigneur, sur ta grâce. Merci notre Dieu, merci Seigneur Jésus, et bénis chacun d'entre nous, et que nous repartions Seigneur avec ce trésor inestimable au fond de nos cœurs, connaître Jésus. Or ta parole nous dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Merci Père, merci Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.